Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Et dans son enseignement, il leur disait, « Écoutez, voici que le semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus. » Et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde, et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et, faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit, en poussant, en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec le douze l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. » Et ainsi, comme dit le prophète, « Ils auront beau regarder, de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racine. Ce sont des gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, les séductions de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent, ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole du Seigneur. La première lecture est intéressante d'une manière particulière parce que c'est la première fois dans l'Ancien Testament où, d'une manière claire, évidente, est annoncée la venue du Messie dans la lignée de David. D'ailleurs, quand on étudiait ces livres, certains professeurs voulaient qu'on retienne dans la mesure du possible, même par cœur, cette référence parce qu'elle était importante. Donc, deuxième livre de Samuel, au chapitre 7, c'est suffisant. Mais si tu veux encore aller plus loin, eh bien, versets 7 à 17, voyez-vous. Alors c'est là, en fait, que Nathan a été envoyé par Dieu pour aller voir David. Parce que David se disait, je vais construire la maison du Seigneur. Et le Seigneur envoie Nathan pour lui dire, va dire à David, c'est pas lui qui va me construire une maison. Moi, je lui construirai une maison. Je ferai que sa royauté demeure pour toujours, qu'elle demeure stable pour toujours. Et je ferai que un de ses descendants reste sur le royaume pour toujours. Voilà pour nous les chrétiens, voilà pour nous les disciples du Christ, un message important, une référence importante qui annonce la venue du roi de l'univers, Jésus, notre Messie, Jésus de Nazareth. Alors quand on prend ces textes-là et quand on les médite, alors on commence à voir comment déjà Dieu, dans son plan, dans son dessein, préparait les choses. L'évangile d'aujourd'hui est aussi particulier parce qu'en fait, il y a la parabole que Jésus annonce et puis les disciples n'ont pas tellement compris. Et demandent, explique-nous la parabole. Alors Jésus lui-même s'explique, il illustre ce qu'il vient d'annoncer. Alors, moi, je trouve que c'est important dans le sens que Jésus nous donne une approche qu'on devrait prendre pour comprendre ses paraboles. Voilà comment lui-même explique ce qu'il vient de dire. Voyez-vous. Si il faut retenir les choses d'une manière succincte, moi, je dirais qu'il y a deux camps. Le premier camp, c'est le camp du semeur, de Dieu. Dieu qui annonce sa parole. Là, il n'y a pas de problème. Dieu annonce sa parole. D'une manière généreuse, il jette le grain partout. Même quand il a eu des ronces, des pierres, du roc, il sème. Sans restriction, il donne généreusement. Mais tout le problème se trouve du côté de la réception, du côté de la disposition, du côté du terrain. C'est là où se trouve le problème. Le terrain, c'est vous, c'est moi. Alors, quand le terrain se prépare à accueillir la semence, quand le terrain est disposé à recevoir la semence, à ce moment-là, la production de fruits est possible. Mais si le terrain est étouffé par les soucis du monde, si le terrain est ouvert plutôt à la recherche de pouvoir, à la recherche du prestige, sans aucune préoccupation pour cette semence qui tombe, il n'y a pas beaucoup de chances que cette semence-là puisse porter fruit. Alors, ce qu'il faudrait faire peut-être, vous et moi, c'est de demander au Seigneur la grâce de la bonne terre, c'est-à-dire être disposé à recevoir la parole de Dieu. C'est-à-dire, moi, je fais tout pour écouter, pour entendre, et que cette parole, quand elle tombe en moi, quand elle loge en moi, eh bien, qu'elle puisse elle-même s'épanouir, porter de fruits en abondance, pour que mes paroles, mes pensées, mes actes expriment cette semence qui est tombée en moi. Nous fêtons Saint François de Sales. On raconte que lui, il a 12 ans, on l'a envoyé à Paris parce qu'il a vécu en fait à Sales. En fait, c'était au sud de France, sud-est de la France. Alors ses parents l'ont envoyé à Paris pour les études. Et puis là-bas, il a grandi, il a étudié comme tout le monde, il a fait de bonnes études. Mais on raconte qu'à 20 ans, il a piqué comme une crise. Il est entré dans une crise parce qu'il ne comprenait pas tellement ce qui s'est passé autour de lui. En fait, c'était à ce moment-là que le protestantisme s'installait aussi davantage en France. Et il y avait beaucoup l'idée de la prédestination, c'est-à-dire les gens... Par exemple, le calvinisme, entre autres, eh bien, pour eux, quand tu nais, Dieu t'a déjà prédestiné. Tu es né, ben, tu seras condamné, tu iras en enfer. Alors, tu auras beau vivre dans la vie comme tu veux, tu es prédestiné à aller en enfer. Alors, lui, il était tourmenté par cette idée-là. Il dit, comment est-ce que le Dieu est juste? Comment est-ce qu'il peut nous envoyer comme ça? Alors, il se demandait, peut-être qu'il était prédestiné à aller en enfer. Alors, comment faire pour s'en sortir? Il raconte lui-même, dans sa lutte, dans sa recherche spirituelle, que finalement il s'est dit, moi là, je m'abandonne dans les mains de Dieu. Ça c'est la disposition. Je m'abandonne dans les mains de Dieu, je me laisse faire. Et puis il osait dire, Seigneur, moi je t'aime sur cette terre. Même si toi tu me prédestines à aller ailleurs, tant que je vivrai ici, je t'aimerai toujours, disait-il. Malgré tout, je t'aime. Et il s'est laissé comme ça. Je suis à toi. Et je pense que c'est cette attitude profonde que nous sommes appelés à entretenir en nous. Confiance totale en Dieu. Se laisser tomber, s'abandonner dans les mains de Dieu et savoir qu'en fait, Dieu nous veut toujours du bien. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander cette grâce-là au Seigneur, d'être toujours disponible pour lui, d'être là pour lui, et que la semence de sa parole qui tombe à nous puisse porter des fruits escomptés. Amen.